On va y aller. Merci d'être là avec nous. On est en osmose sur www.osmose-radio.fr, sur Facebook, sur Instagram, sur Thread, sur X. Enfin, on est partout. Et eux, ils sont là avec nous pour le Festival d'Avignon bientôt. Bonjour à vous.
Bonjour. Bonjour.
Françoise Naon, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Et j'ai Patrick Zeff. Ça m'aide.
Très heureux.
Ça va?
Ah, tout à fait.
On a oublié une moitié de votre nom avec Julien Cafaro.
Oh, vous n'êtes pas les premiers, c'est pas grave.
Oui, c'est vrai. Bah, on raccourcit, comme ça, ça va plus vite. Patrick, justement, vous êtes metteur en scène, je crois.
C'est tout à fait.
Mmh. Et vous êtes comédienne.
Voilà.
Vous nous présentez la pièce Itael Ne Goldfeld, une pièce que... on a un peu abordée ces jours-ci. C'est quand même un sujet... C'est un gros sujet. Qui c'est qui nous en parle?
Françoise?
Françoise. Allez.
Oui, c'est un sujet qui est grave et qui est aussi d'actualité. Alors, on est en 1942. Ita vient d'Odessa. Elle a fui les pogroms au début du siècle, du 20e, avec sa famille. Ils se sont cachés dans la cale d'un bateau. Puis ensuite, ils sont arrivés à Marseille. Ils ont pris le train pour Paris. Et ça fait 30 ans qu'ils habitent à Paris 4e, dans la rue du Petit Musc. Salomon, son mari, a fait la guerre pour la France. Il en est mort. Il a été gazé dans les tranchées. Et voilà. Et son fils, au moment où démarre la pièce, le fils d'Ita vient d'être amené à Drancy.
On est en 1944, hein.
42.
42, pardon.
Elle se retrouve donc seule depuis quelques jours chez elle. Et elle vient de recevoir la visite de trois policiers. Et l'un d'entre eux lui a laissé une heure pour se préparer.
Mais
il a eu pitié d'elle.
Ils viennent la charger pour l'amener elle aussi.
Vraisemblablement, oui. Mmh. Et elle a une heure pour faire un choix. Voilà. Et c'est cette heure-là où elle va se livrer, où elle va revivre son histoire familiale, où elle va parler de ses enfants. Et surtout, elle va s'interroger. Elle doit écrire à ses enfants. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va rester? Est-ce qu'elle va tenter de fuir? Voilà. C'est cette heure-là. On va pas vous dire la fin, mais
bah non.
C'est toute cette heure-là. Donc, c'est assez bouleversant. C'est un personnage qui est très solaire, qui est très naïve aussi, qui ne sait pas. Elle est dans la bienveillance tout le temps. Et voilà, c'est une pièce.
Autour d'elle, on n'est pas dans la bienveillance, quoi.
Autour d'elle, on n'est pas dans la bienveillance. Elle a cette espèce de naïveté et elle est pleine d'interrogations. Elle est très touchante. C'est un personnage qui est passionnant à jouer parce qu'il y a plein de facettes et voilà. Et c'est une grande chance pour moi de la présenter à Avignon cette année.
On va en parler. C'est un texte de Eric Zanettaci. C'est très intéressant parce que c'est un moment suspendu là.
Complètement.
On en parlait justement parce que on parle souvent du camp avant ou après, mais très rarement cet instant. Remarquez, j'imagine, c'est pas tous les policiers de l'époque qui laissaient une heure.
Alors c'est effectivement quelque chose de tout à fait exceptionnel. Habituellement, quand il y avait des rafles ou même sans rafles, quand la police française, parce que c'était la plupart du temps la police française, hein, il faut le rappeler, qui venait chercher. Les gens, c'était faites vos valises et 5 minutes après, vous avez 5 minutes, 10 minutes, et 5 minutes après, ils se retrouvaient dans un camion, dans une voiture et c'était fini. Là, il se trouve qu'il y a un policier qui tombe sur la photo donc de l'ancien mari d'Ita en uniforme de poilu, parce que cet homme, Salomon, avait décidé, il n'était pas mobilisable en 1914, puisque effectivement il était d'origine ukrainienne.
Ouais.
Et il avait quand même tenu à remercier la France en s'engageant, en disant voilà, je dois remercier le pays qui nous a accueillis. Donc il avait pris l'uniforme de la Légion et ça lui a coûté la vie. Et donc c'est probablement le fait de découvrir ce personnage-là qui a poussé ce policier à lui laisser une heure. Encore une fois, c'est une histoire vraie et c'est une histoire absolument exceptionnelle parce que ça n'arrivait pas. Il n'y avait pas cette compassion ou cette empathie chez la plupart des policiers français à l'époque, hélas.
Vous savez comment l'auteur a retrouvé l'histoire?
Parce c'était que c'est son arrière-grand-mère.
Ah ben d'accord, oui, alors du coup, on est en plein dedans.
C'est ça, c'était son arrière-grand-mère. Il a ça dans ses gènes, dans l'histoire de sa famille. Et donc, il y a nécessairement une partie qui est fictionnelle, parce qu'il n'était pas sur place, dans ses interrogations, effectivement, dans ses doutes, dans ses sentiments. Mais tout ce qui est évoqué en termes d'origine, en termes de drame, en termes d'émigration, de catastrophe, c'est rigoureusement exact.
On a des destins terribles, là. Parce qu'eux-mêmes viennent d'Odessa, vous m'avez dit.
Oui.
Alors, donc, ce sont des migrants qui galèrent.
Et en fait, ce qui est passionnant aussi dans cette histoire, c'est que c'est une histoire qui touche à l'universalité, puisque l'auteur, en fait, Eric, qui est un ami aussi maintenant, enfin pour moi, parce que Patrick le connaissait depuis très longtemps, comme il l'a dit, Eric tient absolument à ce que ce soit pris comme une histoire universelle et pas simplement une histoire de juifs.
Eh oui, parce qu'on a, tous les composants, là.
C'est ça.
Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces migrants, donc, entre guillemets, se donnent pour la France.
Exactement.
Et derrière, la patrie des droits de l'homme, voilà comment
et c'est pour ça
on
qu'elle
récolte
a cette...
des fruits, quand même, qui sont assez atroces.
Elle a cette confiance absolue dans son pays, dans ce pays qui l'a accueilli. D'ailleurs, elle en parle, elle le dit dans le texte. La France, la patrie des droits de l'homme, la terre d'asile, en fait. Pour eux, c'est la France leur a ouvert les bras.
Oui.
Donc elle ne peut pas imaginer qu'elle puisse revivre des horreurs comme elle a vécu en Ukraine.
Et c'est justement ce qui, nous aussi, nous apparaît important, si tant est que cette pièce véhicule un message, c'est que ce soit dès qu'on commence à s'attaquer en France à une minorité, quelle qu'elle soit, c'est la République qu'on attaque, c'est l'histoire du pays, et c'est tout ce qui fait que la France est un pays unique, avec un passé exemplaire.
Sauf à une certaine période.
Oui.
Les droits de l'homme, ça vient d'ici, quand même.
Oui, peut-être, mais...
Voilà. Mais...
On n'hésite pas à accueillir des chefs d'État qui dépiétinent les droits de l'homme.
Fait d'accord. Ça, la diplomatie, les relations internationales, c'est autre chose. Là, on parle de vivre ensemble. Et dès que l'on s'attaque à une minorité, pour quelque raison que ce soit...
Et quelle que soit cette minorité, bien
et
sûr.
Et quelle que soit... Absolument, absolument. Quelle que soit cette minorité, c'est effectivement tout ce qui fait le ciment... De la France, tout
cette
ce qui
patrie,
fait
on va dire.
Tout ce qui fait cette patine, tout ce qui fait le fait que l'on aime vivre ensemble ici, c'est à ça qu'on s'attaque. Voilà. Donc c'est en ce sens-là que cette histoire est...
Et c'est important parce qu'en ce moment, on est très attaqué.
Absolument.
Ouais.
Alors cette pièce, pour moi, enfin pour nous, hein, c'est très important pour nous de jouer cette pièce aujourd'hui. Et en particulier, c'est très important que cette pièce soit vue par les jeunes gens. On a pas mal joué devant des lycéens, des collégiens qui la reçoivent avec beaucoup d'étonnement aussi et beaucoup d'intérêt. Et c'est voilà. Donc évidemment, cette pièce véhicule un devoir de mémoire, mais pas que ça. C'est une vraie pièce. Il y a une vraie dramaturgie avec un suspense, hein, puisqu'il y a justement cette interrogation. Donc tout le fil de... On est suspendu à la parole d'Ita, à ce qu'elle raconte, à ses souvenirs, à tout ce qu'elle a vécu, etc. Elle parle beaucoup de sa famille, de ses enfants. Et elle se pose une tonne de questions, en fait.
C'est vous, Ita, dans la pièce, Françoise.
Ouais,
dans quel état psychologique vous êtes pendant cette heure? Ça dure combien? Une heure et quart, je crois.
Une heure et quart.
Alors, je suis vraiment...
On a du mal à cerner, parce qu'on ne l'a jamais vécu. On ne peut même pas imaginer.
Non, mais
ça doit être un bouleversement.
Elle est avec moi. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est très curieux parce que ce n'est pas mon premier seul en scène. J'ai déjà fait un monologue. J'ai joué 24 heures la vie d'une femme de Stéphane Zweig. Mmh. Donc, ce n'est pas la première expérience du seul en scène. Mais en revanche, j'ai l'impression que dès que je pense à Ita, elle est avec moi. C'est
très
curieux.
Ce qui m'intéresse, c'est son état psychologique. Comment on est on est dans la panique, dans le...
La pièce démarre. Elle vient de fermer la porte. Et elle est dans un état complètement... elle est assommée parce qu'elle elle dit « Oh, comme j'ai eu peur, comme j'ai eu peur !» Elle ne sait pas. Et tout de suite, elle va embrayer sur ses souvenirs. Alors, dans quel état on est? Je suis extrêmement concentrée avant de démarrer, bien évidemment, hein, comme chaque fois qu'on démarre un spectacle. Et en même temps, je pense à elle et je suis extrêmement fière de porter sa parole. On s'oublie un peu. Je pense à Eric, je pense à Patrick, je pense à tous ces gens qui ont vécu ce drame. Je me retrouve, je sais pas, on a l'impression qu'on, enfin moi j'ai l'impression que C'est un peu absurde de dire ça, qu'elle est avec moi et que je l'aide
supporter ce moment. Oui.
Voilà, je suis un peu son porte-parole. Voilà. Voilà, ouais. Et je me sens missionnée, parce que c'est peut-être un grand mot, mais porter cette parole-là, dire ce texte-là qui est extrêmement bien écrit, sans pathos, il n'y a aucun moment où on ressent le pathos, justement. Mmh. Et c'est ça qui est beau, en fait.
Parce que là, on n'a pas le temps de pathos, puisqu'à mon avis, une heure, c'est un instant très bref, là.
Alors, ça le public a des larmes, hein, quand même. Mais ça peut arriver, mais même ça arrive fréquemment. À la fin, ce qui est très touchant, c'est que les gens viennent me voir, le public parfois vient me voir, presque on a l'impression qu'ils veulent me prendre dans les bras, qu'ils veulent me réconforter, etc. Donc ça, c'est extrêmement touchant et c'est mission accomplie, en fait. Si simplement ce texte-là peut aider à faire comprendre un certain type de personnes...
Peut-être qu'ils n'iront pas la voir, la pièce, ce certain type de personnes aussi.
Ben, ça serait bien qu'ils viennent.
Ah oui, mais bon, il faudra les pousser, alors.
C'est ça.
Et puis faire comprendre que... C'est arrivé une fois, mais c'est pas parce que c'est arrivé une fois que ça ne peut pas se reproduire.
Bah là, en ce moment,
pour la communauté juive, pour n'importe quelle communauté qui va se retrouver stigmatisée ou devenir bouc émissaire pour X ou Y raison.
Bah, c'est ce qu'on voit partout, des extrémistes qui montent dans toute l'Europe, dans le monde, etc. Donc c'est vrai qu'en ce moment, il y a une odeur étrange dans l'atmosphère.
C'est ce que Brecht appelait la bête immonde, dont le corps est encore chaud.
Voilà. Donc bon, on verra jusqu'où ça nous mène. Mais c'est vrai que vraiment, ces pièces-là, en ce moment, ça parle, ça vibre.
Voilà.
Raison de plus.
D'où l'intérêt d'être plongé dans le personnage d'une femme seule qui reçoit cette visite et qui se retrouve là pendant une heure
un
battement de temps. Voilà. Ce qui l'intéressait, c'était justement son état d'angoisse.
C'est ça. Et en fait, on l'accompagne. Alors Patrick a construit la mise en scène avec beaucoup de pudeur, de délicatesse, je dirais. En fait, dès le début, quand il m'a proposé la pièce, il avait déjà son idée quand même extrêmement précise. Et en fait, il y a une mise en scène qui est extrêmement pure. On est dans l'appartement d'Ita, il n'y a pas d'effet particulier. On est chez elle et le public entre chez elle. On a vraiment cette impression-là. Il n'y a pas d'artifice, c'est vraiment le texte, le jeu et l'émotion est là tout de suite. Il y a juste des petits éléments de décor qui vont appuyer l'époque pour nous situer dans l'époque. On n'a pas d'artifice de dire on va faire une mise en scène contemporaine, on s'en fout en fait de ça. Ce qu'on veut, c'est accompagner Ita et être avec elle chez elle. Et voilà. Et puis sa direction... pour moi, ça a été merveilleux. C'est vraiment une vraie histoire de comédienne avec Patrick. Et il m'a accompagnée tout au long de notre travail en me guidant et en me disant « Tu parles à tes petits-enfants. » Donc, jamais de pathos.
Oui, parce que ça alourdit les pièces. Hein,
Surtout, pas du tout.
Non, mais quand on en rajoute, c'est un peu lourd.
Le pathos dans cette pièce-là, c'était impossible.
Bah oui, il faut que ça soit...
C'était impossible. Le sujet est déjà tellement lourd, tellement... Pardon, tellement tendu, que rajouter du pathos... Comment il reviendrait à rendre cette situation totalement invisible et insupportable. Alors, j'aimerais préciser, merci Françoise pour ces compliments, mais je n'étais pas seul à la direction, à la mise en scène. C'est le sentiment que j'ai. Tout s'est mis en place très naturellement. Et à chaque fois que j'avais un doute sur une indication, sur une couleur, même sur un déplacement, en fait, l'idée venait dans les 2 minutes. Et je disais à Françoise, tiens, il faudrait essayer ça, etc. Et je reste persuadé que dans la direction, j'ai eu une assistante à la direction, à la mise en scène, qui était Ita. Ita elle-même.
Ah oui,
alors, habituellement, je ne suis pas du tout dans ces tripes d'ésotérisme, les esprits, du tout. Mais là, tout s'est fait d'une telle manière que j'ai le sentiment que dès que j'avais un doute... Elle intervenait en disant « ça serait peut-être bien que tu fasses ça. Peut-être qu'elle pourrait dire ça comme ça. »
Et puis ce qui était génial aussi, c'est que, je ne sais pas si tu te souviens, mais forcément, au fur et à mesure des répétitions, chaque fois que nous répétions, Patrick appelait Eric, le metteur en scène, pour lui parler de l'évolution de notre projet, de la répétition, etc. Mmh. Et on était en lien aussi avec l'auteur, qui est dramaturge, hein. C'est pas seulement son histoire personnelle, mais il a aussi son avis.
Puis il a écrit d'autres pièces aussi.
Il a écrit d'autres pièces, et puis l'écriture est vraiment très très belle. Et Eric aussi nous disait, on a quasiment rien changé du texte initial. Je crois qu'on a fait le texte intégral, quasiment. Voilà, il nous a accompagnés tout au long de la pièce et Ita était avec nous. Donc il nous a confié des secrets aussi, il nous a confié des petites anecdotes. Et ça nourrit aussi, ça nourrit l'interprétation aussi.
Voilà. Bah écoutez, il y aura peut-être pas que Ita avec vous, hein, pendant le festival.
On espère bien.
C'est à partir de quand, du 3 juillet, hein, que
alors, du 3 juillet au 21 juillet. À l'Oriflamme, à 17h30. Ouais.
À l'Oriflamme.
Et il y a des relâches. Et on a deux générales de presse, le 14 et le 15 juin.
D'accord.
Aussi à l'Oriflamme, à l'issue d'une semaine de résidence.
Parfait, bah écoutez, on se donne rendez-vous à l'Oriflamme.
Mais avec grand plaisir.
À 17h30 tous les jours pendant le Festival d'Avignon, avec les relâches le lundi.
Absolument.
Merci à vous deux.
Merci beaucoup.
À bientôt.